Je vais lire le texte qui va servir de base à la prédication. Il se situe dans 2 Samuel, chapitre 13, et ce sont les versets 1 à 22. Absalom, un fils de David, avait une sœur qui était très belle et qui se nommait Tamar. Amnon, un autre fils du roi David, en tomba passionnément amoureux. Il se rongeait tant à propos de sa demi-sœur qu'il s'en rendait malade, car elle était vierge et il lui semblait impossible de l'approcher. Amnon avait un ami nommé Jéhonadab, un fils de Shiméa, le frère de David. C'était un homme très astucieux. Il demanda à Amnon, « Fils du roi, pourquoi es-tu si déprimé? Chaque matin, tu parais l'être davantage. Ne veux-tu pas m'en dire la cause ?» Amnon lui répondit, « Je suis amoureux de Tamar, la sœur de mon frère Absalom. » Jéhonadab lui dit alors, « Mets-toi au lit et fais comme si tu étais malade. Quand ton père viendra te voir, dis-lui, « Permets à ma sœur Tamar de venir me faire à manger, qu'elle prépare le repas sous mes yeux afin que je la voie faire, puis je mangerai de sa main. » Amnon se mit donc au lit et fit semblant d'être malade. Le roi vint le voir et Amnon lui dit, « Fais venir ma sœur Tamar pour qu'elle me prépare 2 galettes sous mes yeux et je les mangerai de sa main. » David envoya dire à Tamar dans son appartement, « Va chez ton frère Amnon et prépare-lui son repas. » Tamar se rendit donc chez son frère Amnon et le trouva couché. Elle prépara de la pâte et la pétrit, puis confectionna des galettes devant lui et les fit cuire. Ensuite, elle prit la poêle et lui en servit le contenu devant lui. Mais il refusa d'en manger et dit, « Faites sortir tout le monde d'ici. » Tous se retirèrent. Alors il demanda à Tamar, « Apporte-moi ces galettes dans ma chambre pour que je les mange de ta main. » Tamar prit les galettes qu'elle avait faites et les apporta à son frère Amnon dans sa chambre. Au moment où elle les lui présentait, il l'empoigna et lui dit, « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Mais elle s'écria, « Non, mon frère, ne me fais pas violence. Cela ne se fait pas en Israël. Ne commets pas une telle infamie. Après cela, où irais-je porter ma honte? Et toi, tu serais considéré comme un individu méprisable dans notre peuple. Pourquoi ne parles-tu pas au roi? Il ne refusera pas de me donner à toi. » Mais il ne voulut rien entendre. Et comme il était plus fort qu'elle, il lui fit violence et coucha avec elle. Après cela, il conçut pour elle une forte aversion, plus violente que la passion qu'il avait éprouvée pour elle. Tout à coup, il lui ordonna, « Lève-toi, va-t'en !»« Non, lui dit-elle, en me chassant, tu commettrais un crime encore pire que le mal que tu m'as déjà fait. » Mais il ne voulait pas l'écouter. Il appela le domestique qui était à son service et lui ordonna, « Débarrassez-moi de cette fille !» Jetez-la dehors et verrouillez la porte derrière elle. Elle portait jusque-là une longue robe multicolore, car c'était autrefois la tenue des princesses, aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le domestique la mit dehors et verrouilla la porte derrière elle. Alors Tamar répandit de la cendre sur sa tête. Elle déchira sa longue robe, se prit à deux mains la tête, puis elle partit en poussant des cris. Son frère Absalom lui demanda, « Ton frère Amnon t'a-t-il fait violence ?» « Maintenant, ma sœur, n'en parle pas, c'est ton frère, et ne prends pas la chose trop à cœur. » Dès lors, Tamar alla demeurer dans la maison d'Absalom comme une femme abandonnée. Le roi David apprit tout ce qui s'était passé et en fut très irrité. Quant à Absalom, il n'adressait plus la parole à Amnon, ni en bien, ni en mal, car il l'avait pris en haine à cause du viol de sa sœur Tamar.
La semaine dernière, on a entamé une réflexion sur la gestion de notre désir sexuel. Vous vous souvenez, si vous étiez là, on avait médité sur l'adultère de David avec Bathsheba. Cet adultère qui s'était terminé de façon si dramatique avec l'assassinat d'Uri le Hittite, le mari de Bathsheba. Uri, il aurait pu être celui qui témoignait que l'enfant qui allait naître n'était pas de lui. Et donc David l'avait éliminé. On avait tenté de décrypter le comportement de David. Tout avait commencé par un coup d'œil déclencheur, voyeurisme. Le tout suivi par convoitise, adultère, puis, pour cacher son méfait, hypocrisie, manipulation, cynisme et meurtre. Mais David avait été percé à jour par l'intermédiaire du prophète Nathan. Et David était revenu à Dieu dans un mouvement de repentance, il avait eu cette parole forte. « J'ai péché contre l'Éternel. » David avait été réhabilité, pardonné par Dieu, mais les conséquences de ses actes se font sentir. Déjà, pour Uri le Hittite, qui n'est plus là, assassiné. Pour l'enfant de l'adultère, qui va mourir. Pour Bathsheba, qui perd son mari et son fils. Et puis, pour David lui-même, comme on va commencer à le voir ce matin. C'est le début, on pourrait dire ça comme ça, c'est le début de la fin pour le grand règne du grand roi David, qui tombe bien bas. Ça commence aujourd'hui par un viol qui est également un inceste au sein de ses propres enfants. Alors quand on lit le viol de la belle Tamar par son frère, par son demi-frère Amnon, je dirais que ça résonne dans notre actualité. On se dit que les quelques 3000 ans qui nous séparent de ces événements, les quelques 3000 ans, eh bien, ils ont loin d'avoir tout réglé. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, je suppose que la plupart d'entre vous ont entendu parler de l'affaire Harvey Weinstein. Donc c'est un producteur de films américains et pendant de nombreuses années à Hollywood, il a utilisé sa puissance pour la convertir, entre guillemets, en relation sexuelle consentie ou non. Et aujourd'hui, parmi les innombrables victimes qui revendiquent d'avoir été violées par lui, il y en a deux qui ont officiellement porté plainte. Et le procès est en cours. Il va y avoir, alors je ne suis pas un spécialiste de la justice, mais visiblement, c'est les délibérations qui commencent mardi, là, dans deux jours. Les délibérations du premier procès Weinstein. Qu'est-ce qu'on peut en dire de tout ça? On peut en dire à minima que la parole des femmes est en train de se libérer. Et si vous êtes sur Twitter, mais de toute façon vos oreilles ont dû siffler ça depuis longtemps, hashtag MeToo ou hashtag balance ton porc. Ça vous dit quelque chose? Je dirais qu'il était temps. Et les chiffres en France sont assez effrayants. Est-ce que vous savez combien de viols sont déclarés chaque année? 250 000. 93 000 par des femmes. 15 000 par des hommes et 150 000 pour des mineurs. Et ça, semblerait-il que ce n'est que la partie immergée de l'iceberg. Combien de viols ne sont pas déclarés? Par honte, tout simplement. Et au-delà de ces chiffres, parce qu'on pourrait se cacher derrière ces horreurs, pour dire que ça ne nous concerne pas, mais je dirais qu'au-delà de ces chiffres, on est renvoyé aussi à nous-mêmes. Comment est-ce qu'on gère notre propre frustration, et en particulier notre propre frustration sexuelle? Comment est-ce qu'on gère notre désir? Qu'est-ce qu'on fait de la souffrance de toutes ces victimes, femmes, hommes et enfants? Comment est-ce qu'on l'accueille et comment est-ce qu'on y répond? Voilà à quoi on est confronté ce matin, je dirais, à ce qu'il peut y avoir de pire en l'être humain. On va commencer par analyser ce qui se passe dans ce récit en essayant de décrypter le désir d'Amnon. Verset 2, il tombe passionnément amoureux de sa demi-sœur. Et le récit va vite montrer qu'il ne s'agit pas d'amour. Donc Amnon est le demi-frère de Tamar, et d'après la loi juive, ils ne peuvent pas se marier, ce n'est pas possible. Et puis à cette époque, je dirais que les jeunes filles ne fréquentaient pas trop les jeunes hommes. Et on comprend, d'après ce que dit Amnon de sa situation, il en est malade de cette situation bloquée, qui n'a pas d'issue. Et c'est là qu'intervient un certain Yehonadab, une sorte d'ami, conseiller qui est là, et qui constate que son ami Amnon dépérit de jour en jour. Le verset 3 dit que Yehonadab était très astucieux et très intelligent. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il met son intelligence et son astuce non pas au service de Dieu, mais au service du mal dans ce récit. Il propose à Amnon une sorte de véritable stratagème pour qu'il puisse réaliser son fantasme avec sa demi-sœur et qu'il puisse coucher avec elle. Et là, ça m'a interpellé. Ça m'a interpellé cette influence de Yehonadab. Il propose véritablement une vision de l'amour qui réduit la femme au seul statut d'objet. Alors, je ne vais pas m'étendre sur cette question-là. On en a déjà longuement parlé la semaine dernière. Mais c'est clairement une vision déformée de l'amour. C'est exactement la même vision déformée que nous propose la pornographie. Ces images qui flattent nos désirs, mais qui détruisent de l'intérieur et qui peuvent handicaper nos relations, notre vie amoureuse, nos relations sexuelles. Protégeons nos yeux de ces images et protégeons nos enfants également de ces images. Je dirais qu'Yehonadab, il est comme une sorte de personnification de nos mauvais désirs. Il est cette, vous savez, cette espèce de petite voix intérieure qui nous encourage à ne pas résister au mal. Est-ce qu'on a, nous aussi, un Yehonadab qui nous inspire de mauvaises choses ? Auquel cas, peut-être coupons avec lui. Face à un ordinateur, est-ce qu'on met à exécution nos pulsions ? Et la question, comment résister ? Comment résister à tout ça ? La stratégie de résistance, elle est la même que pour tous les autres péchés. Il nous faut revenir à la croix. C'est ce que nous enseigne la Bible. Revenir toujours et toujours à la croix. Car c'est bien de la croix et bien de la résurrection de Jésus, 3 jours après sa mort, que découle pour nous une vie nouvelle, avec de nouvelles motivations de vie. Imaginez, Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ pour nous sauver. Jésus qui a payé à notre place tout, pour tout ce qu'on a fait de mal, tout le mal qu'on a pensé, qu'on a fait. Et en ressuscitant d'entre les morts, il nous offre une vie nouvelle. Une vie nouvelle délivrée du mal, avec un nouvel objectif. Nouvel objectif de vivre pour lui, de mener une vie qui l'honore. Et tout à l'heure, Laurence a parlé de la joie qu'il pouvait y avoir à vivre une vie qui honore Dieu. Et c'est vrai. C'est vrai parce que les promesses qu'il a pour nous sont plus, j'utilise le mot sciemment, les promesses qu'il a pour nous sont plus jouissives que nos mauvais désirs. La vie éternelle dans le royaume de Dieu contient infiniment plus de plaisir que le moindre des plaisirs ici sur terre. Et donc, c'est par ce détour vers la croix que nous pourrons tenir ferme. Pour résister, Dieu nous a donné plusieurs outils, les plus importants étant sa parole, la Bible, qui contient énormément de promesses et d'encouragements pour nous. Il nous a donné la prière pour nous adresser à lui, Dieu, pour lui demander des forces pour tenir ferme. Et il nous a donné l'Église, l'ensemble des frères et des sœurs avec qui eh bien, on peut s'encourager à tenir ferme. Dieu intervient dans notre vie souvent à partir de ces 3 outils, parole, prière, Église. Son esprit qui s'empare de ces 3 outils pour nous transformer de l'intérieur. Il s'empare, l'esprit, de nos lectures bibliques pour nous transformer. Il s'empare de nos prières pour nous donner sa paix. Et puis il s'empare de nos relations de frères et sœurs en Église pour nous encourager à tenir bon. Alors ce Yehonadab, qui était soi-disant si sage et intelligent, eh bien, il aurait plutôt dû dire à Amnon qu'il n'y avait aucun avenir et aucun espoir dans aucune relation quelconque avec sa demi-sœur Tamar. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et là, c'est une interpellation pour les chrétiens qui sont matures, je dirais. Parce que ce soit les conseillers, les anciens, le pasteur ou les fondateurs de l'Église, que sais-je, les personnes qui ont de la maturité ou qui sont soi-disant une maturité, ils sont en général sollicités pour donner des conseils. Ça arrive de temps en temps, qu'ils soient sollicités pour donner des conseils. Et pour entourer des chrétiens qui sont moins matures, qui sont plus jeunes dans leur foi. Alors je ne pense pas que nous soyons des Yehonadab qui encourageons sciemment ces jeunes chrétiens à tomber dans le mal. Non, on n'en est pas là. Mais néanmoins, ça nous interpelle à réfléchir à notre façon de faire. Comment est-ce qu'on s'y prend avec ces jeunes chrétiens ? Il y a parfois des choses qui sont difficiles à dire, des choses qui sont dures à dire. Mais je dirais qu'on a une obligation. Cette obligation, c'est de les dire avec amour. « les dire avec toujours une parole qui relève. Une parole qui plutôt met en marche et qui pointe vers le pardon que l'on a en Jésus-Christ. Parce que parfois on se dit, mais on peut désespérer de l'humanité. Mais on n'a pas le droit en tant que chrétien de désespérer de ce que Dieu peut faire dans l'humanité. Dieu n'est pas court de puissance. Il peut toujours transformer et changer le cœur. Nous ne pouvons pas désespérer de ce que Dieu peut faire. On a une exigence de patience et non de jugement envers toutes les situations complexes que nous voyons en Église et hors Église. On est appelé à manifester envers l'autre la même bienveillance et le même accueil que Christ nous a réservé. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait Amnon avec ses conseils de Jéhonadab ? Eh bien malheureusement, il les met en application, il met le plan de Jéhonadab en exécution. Il simule une maladie, il fait venir sa sœur pour qu'elle cuisine pour elle, pour lui. Il congédie tout le personnel pour se retrouver seul avec sa sœur et il lui impose son désir sexuel. Je trouvais que le texte biblique était relativement pudique. Il lui fit violence et coucha avec elle. On appelle ça un viol. Et malheureusement, c'est le cas de viol le plus fréquent. C'est le viol commis par un proche, un membre de la famille, un intime. C'est pas un étranger dont on se serait méfié. C'est un proche, quelqu'un qui est connu. C'est pas un accident, il y a toute une stratégie qui a été élaborée. Et ça, c'est une monstrueuse trahison. En 2007, en France, sur les 250 000 viols dont je vous ai parlé, est-ce que vous connaissez le pourcentage de viols qui sont commis par des proches ? 91%. Autant dire 100%, quasiment. 91% des victimes connaissaient leur agresseur. Preuve ultime que les sentiments d'Amnon ne sont pas de l'amour, à peine a-t-il couché avec sa sœur qu'il en éprouve une forte aversion. Une aversion, nous dit le texte, qui est plus violente que la passion qu'il avait éprouvée pour elle. Verset 15. C'est une façon pour lui de nier le viol, de nier le désir sexuel qu'il a ressenti, qu'il a éprouvé pour sa sœur. Et il méprise tellement sa sœur qu'il l'a fait jeter dehors sans ménagement, comme si c'était elle qui l'avait agressée. Et comme il n'y a pas de témoin, c'est sa parole contre la sienne. En fait, Amnon n'a jamais aimé sa sœur Tamar. Il n'a pas su distinguer le désir de l'amour. L'Évangile, par contre, distingue le désir de l'amour. Vous connaissez peut-être ces paroles de Jésus qui nous dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Vous comprenez bien qu'on est à l'opposé de ce que Amnon a fait à sa sœur Tamar ici. Ou alors l'apôtre Paul qui nous rappelle aussi ce qu'est l'amour. Il est patient, il est plein de bonté, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne trame pas le mal. Que le Seigneur nous protège de ce type de sentiment qu'a pu expérimenter Amnon à l'égard de sa sœur Tamar. Qu'il nous garde du mal. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dans une deuxième et dernière partie, on va réfléchir à la souffrance de Tamar. Cette souffrance, la moindre des choses qu'on puisse en dire, c'est qu'elle est multiple. Comme toutes les femmes de son époque, Tamar, elle n'a pas un statut qui est très avantageux. Elle est pourtant la fille du roi, elle est une princesse. Mais ce qu'on découvre dans ce récit est bien loin des contes de fées. Le récit nous dit qu'elle est arrivée chez son demi-frère en portant une très belle robe. Une robe multicolore de princesse vierge. Et vous avez remarqué comment elle en sort de chez son frère ? Elle en sort avec la robe déchirée et de la cendre sur son visage, marque de deuil. Elle s'est même arraché les cheveux. Elle sort en hurlant. Tamar est en deuil. Alors, elle n'est pas en deuil de sa virginité, hein, Tamar. Elle est en deuil d'elle-même. Hein. C'est un deuil total. Un deuil... Elle est socialement morte à l'époque. Avant cet épisode de sa vie, Tamar, princesse, fille du roi, elle aurait pu prétendre à un mariage royal. Elle aurait pu prétendre à un mariage de princesse. Et là, qu'est-elle après cet événement-là? Elle n'est plus rien. Elle n'existe plus. Plus personne ne voudra l'épouser. Plus personne de haut rang n'aura d'œil vers elle. Elle n'est plus vierge, et ça comptait à l'époque. Et encore, je dirais, dans son malheur, elle a de la chance d'avoir un autre frère, Absalom, qui va la prendre sous sa protection. Elle va pouvoir s'installer chez lui, vers ses 20, et il va lui assurer une sorte de protection. Mais c'est une bien triste protection pour une princesse. C'est la seule chose que son frère Absalom pouvait faire. Alors on va regarder les différentes réactions face à la souffrance de Tamar. Son père, le grand roi David, verset 21, « Le roi David apprit tout ce qui s'était passé et il en fut très irrité. » Quand j'ai lu ça pour la première fois, j'ai cru que c'était une bonne chose. Enfin, quelqu'un qui réagit bien. Mais en fait, c'est sa seule réaction au roi David. Il s'arrête à son irritation. Où est David, le père de Tamar? Un père qui doit prendre soin d'elle dans cette situation. Où il est, le père de Tamar? Et où est David? Où est le grand roi, gardien de la justice de son pays? Où est-il ici, à cet instant? Où est la justice pour Tamar? David ne dit rien et il ne fait rien. Il ne rend pas la justice. Mais en même temps, après ce qu'on a vu la semaine dernière, que pouvait-il faire? Il venait de coucher avec Bathsheba et de faire assassiner son mari, Uri le Hittite. Comment pouvait-il se permettre de rendre justice à Tamar? S'il avait fait arrêter son fils Amnon, pourrait le juger. Il aurait dû lui-même être arrêté pour être jugé. Donc vous voyez que cette histoire d'adultère et de meurtre pour David, c'est une histoire qui devient en plus celle d'une paternité qui échoue lamentablement. Celle d'une royauté qui échoue lamentablement. Il n'a plus rien d'un père aimant. Il n'a plus rien d'un roi qui juge dans la justice. Et David en fut irrité, c'est un père absent et un roi absent. Et devant cette démission, eh bien, si vous lisez, je vous encourage à lire la suite quand vous arriverez chez vous. Vous verrez que c'est son fils Absalom, l'autre frère de Tamar, qui va être obligé de prendre les choses en main. Et 2 ans plus tard, il va venger sa sœur en assassinant son frère, Amnon. Deuxième réaction face à Tamar, c'est celle de son frère Absalom. Si vous avez la petite feuille, suivez au verset 20. Son frère Absalom lui demanda « Ton frère Amnon t'a-t-il fait violence ? Maintenant, ma sœur, n'en parle pas, c'est ton frère. » Et ne prends pas la chose trop à cœur. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ça, mais... Tamar vient de se faire violer, et la seule chose que son frère Absalom lui dit, c'est « N'en parle pas, c'est ton frère, n'y pense plus. » Absalom demande à sa sœur de ne rien dire. Et vous savez quoi? C'est malheureusement un conseil courant dans le cas des viols intrafamiliaux. Pour ne pas faire exploser la famille, eh bien, on conseille de se taire. Pour ne pas faire exploser la famille, on n'accuse pas un oncle, on n'accuse pas un père, on n'accuse pas un beau-père. On n'accuse pas l'ami fidèle qui vient rendre service si souvent. Et pourtant, c'est bien la seule chose à faire dans ces cas-là. La seule chose à faire, c'est de crever l'abcès, même si la famille doit se disloquer. Les églises ne doivent pas être des lieux de silence. Notre église n'est pas un lieu de silence. C'est au contraire un lieu d'accueil, un lieu de paix et de confiance, où on peut dire la vérité, on peut dire la souffrance qui a été la nôtre. Il n'y a rien de pire que le silence, ce silence qui prive la victime de la reconnaissance même de victime. Et vous avez sans doute remarqué la deuxième chose que conseille son frère, ne prends pas la chose trop à cœur. Mais quelle horreur! Il demande à sa sœur de relativiser le crime dont elle vient de subir. En gros, mais oublie quoi. Oublie ce qui s'est passé. Mais je vous demande, comment est-ce qu'on peut oublier quand ça nous arrive? Silence et l'oubli, ça ne permettra jamais la guérison. Un frère bien mauvais conseiller ici, psychologue de haut niveau, j'allais dire. Donc si on résume la situation pour Tamar, c'est une sorte de triple peine. Un, elle a été violée, c'est déjà une horreur physique, une horreur psychologique, une véritable mort sociale pour elle. Deux, on lui refuse la justice. Son père, qui est le roi, le plus haut représentant de la police et des magistrats de l'époque, lui refuse la justice. Et son frère lui conseille de se taire et de passer à autre chose. Alors, comme beaucoup de victimes de viol, Tamar, elle ressent peut-être une forme de culpabilité. Le texte le dit, elle était très belle. Elle était très belle. Il faut combattre cette idée. Tamar, elle a le droit d'être belle. Et elle y est pour rien, en plus. Elle y est pour rien. Alors, est-ce que vous connaissez la chanteuse Angèle? Ouais, vous en avez entendu parler? Chanteuse Angèle. Et la chanson que je préfère, c'est « Balance ton quoi ». Vous connaissez? Assez cru, hein, je vous déconseille le clip, mais en même temps, le clip... très surprenant. Anti-machisme, anti-sexisme. Ça fait du bien d'entendre ce genre de paroles. Alors, balance ton quoi, Angèle. Vous allez voir. Elle dénonce le fait que les belles femmes sont souvent réduites à leur physique. Les gens me disent à demi-mot, pour une fille belle, t'es pas si bête. Pour une fille drôle, t'es pas si laide. Tes parents et ton frère, ça aide. Non mais l'insulte, quoi. On met elle sous-entend qu'on met souvent son intelligence sur le compte de son frère et de ses parents. Réponse d'Angèle. Oh, tu parles de moi? C'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Je vous laisserai découvrir dans le clip, dans les paroles, le plus beau des poèmes qu'elle a écrit pour les personnes qui pensent ça. Les mots sont crus, je vous prie. Hein. Les femmes ont le droit d'être intelligentes et belles, et elles ont droit de ne pas être ramenées à leur physique. Tamar n'est pas coupable parce qu'elle est belle. Le coupable, c'est Amnon. Et c'est aussi ce que Dieu dit dans la Bible. Écoutez ces paroles du Deutéronome. Deutéronome dit que si un homme viole une femme mariée ou une femme fiancée, il doit être lapidé. C'est l'homme hein, qui doit être lapidé. Hein. Et il continue en disant, alors j'étais un peu choqué au début, mais ça mérite explication. Le Deutéronome 22 continue en disant que si un homme vole une femme non mariée, alors il doit quoi? Il doit l'épouser. Alors j'ai été un peu choqué. Le violeur qui doit épouser la femme violée, la jeune femme qui n'est ni fiancée ni mariée. Mais en fait, c'est une sorte de mesure de protection pour les femmes de l'époque qui ne devenaient rien sinon lorsqu'elles n'étaient plus vierges. Et forcer son violeur à l'épouser, c'était pour elle s'assurer d'une rente et une protection à vie. Ça ne voulait pas dire pour elle aimer son violeur et devenir sa femme comme on l'entend aujourd'hui. Non, c'était plus une mesure de protection pour la femme qui était violée. Alors, avant qu'Amnon ne la viole, Tamar, elle a résisté, exactement comme Angèle ici. Elle résiste, Tamar. Elle résiste de quatre façons. Regardez un peu ces quatre façons. Alors j'ai appelé ça la résistance de Tamar. Elle résiste par un ordre. Non, verset 12. Ne me fais pas violence. Elle lui donne un ordre. Ensuite, elle fait appel à sa conscience, toujours verset 12. Cela ne se fait pas en Israël. Ne commet pas une telle infamie. Alors, cela ne se fait pas, et le mot infamie, ce sont des expressions que l'on retrouve telles quelles dans un autre viol dans la Bible. Le viol de Dina, la fille de Jacob, par un certain Sichem, au chapitre 34 du livre de la Genèse. Vous retrouverez exactement ces mêmes expressions. Ce n'est pas un hasard si Tamar utilise ici ces mêmes expressions. Elle veut renvoyer son frère à la parole de Dieu. Souviens-toi, médite ce qui s'est passé dans ta propre histoire, tes ancêtres. Qu'est-ce qui s'est passé auprès de tes ancêtres? Une horreur. Et souviens-toi de ce qui est arrivé à Sichem quand il a violé Dina. Il en est mort. Médite la parole de Dieu. Fais appel à ta conscience. Ensuite, Tamar, elle fait réfléchir son frère aux conséquences possibles de son acte. D'abord, conséquences pour elle. Après cela, où irais-je porter ma honte? Et c'est vrai, quoi. Si tu me fais ça, je suis fini. Alors le fais pas, s'il te plaît. Et ensuite, réfléchis aux conséquences pour toi également. Tu serais considéré comme un individu méprisable dans notre peuple. Réfléchis. Et c'est ce qui va se produire. Il sera tellement méprisé par son frère Absalom qu'Absalom l'assassinera 2 ans plus tard, je vous l'ai déjà dit. Et enfin, quatrième résistance de Tamar. Dernier argument. Un argument bien triste, mais pourquoi ne parles-tu pas au roi? Il ne refusera pas de me donner à toi. C'est le fameux mariage. Elle l'envisage elle-même comme pour se sortir de ce traquenard. Mais ne me violente pas, ne couche pas avec moi tout de suite. Va demander d'abord ma main au roi et je suis sûr que ça va marcher. Et ensuite, ben, si vraiment tu m'aimes et que tu aspires à coucher avec moi, on couchera ensemble, il n'y a pas de problème. Mais va d'abord demander ma main au roi. Mais ce n'est pas ce que veut Amnon. Amnon, il veut juste assouvir son désir et il brise la vie de Tamar. Et sans le savoir, il brise la sienne également. On termine avec Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Son attitude, celle de Jésus, à l'égard des femmes, elle a été révolutionnaire à l'époque. Il a été bon avec la femme samaritaine, en Jean 4, femme qui pourtant cherchait son bonheur en multipliant les hommes. Jésus a été bon avec la femme prise en flagrant délit d'adultère, en Jean chapitre 8. Alors, c'est sûr que Jésus, il aurait su trouver les mots pour Tamar. Il lui aurait rappelé sa dignité de femme. Et si la justice n'a pas été rendue pour Tamar, il aurait encouragé Tamar en lui disant que un jour, la justice sera rendue pour toute l'humanité. Amnon sera bel et bien jugé et condamné et puni pour ce qu'il a fait. Les évangiles accordent une place impressionnante aux femmes. C'est révolutionnaire pour l'époque. Pour Jésus, les femmes ont le droit de citer. Elles ont une dignité égale à celle des hommes. Je vous rappelle ce que dit Paul en Galates. Pour les chrétiens, il n'y a plus ni homme ni femme. Une façon de dire qu'il n'y a plus de différence de statut entre un homme et une femme. La mort de Jésus sur la croix libère de toutes ces barrières. En 2017, 91% des 250 000 viols, 91% des victimes connaissaient leur agresseur. Et pour la moitié d'entre elles, vous savez qui était cet agresseur? Pardon? Non, ce n'est pas le père. C'est le conjoint ou l'ex-conjoint. C'est pour ça que je voudrais terminer avec ça. Parole de Paul en Éphésiens 5, chapitre 25. Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle. Ah, on m'entend ? C'est à cela qu'on est appelé. Aimer notre femme comme le Christ a aimé l'Église. Conclusion, quelques mots juste. Amnon, Amnon m'a fait penser à une partie de notre jeunesse moderne, Amnon. C'est une sorte d'enfant roi, une sorte de prince désœuvré qui ne sait pas quoi faire de sa vie, il n'a pas d'objectif dans la vie, et il s'ennuie et il est complètement dépourvu de maîtrise de soi, Amnon. Et le roi David, malheureusement, m'a aussi fait penser à une certaine forme de parentalité moderne. Visiblement, David ne lui a pas donné d'éducation, il ne lui a pas donné de colonne vertébrale à son fils Amnon. Et David n'exerce pas non plus la discipline à l'égard de ses enfants. Il aurait dû le faire ici. Amnon, il est quoi ? Il est l'exemple d'un enfant sans repère. Il est frustré à mort quand il n'a pas ce qu'il veut, et quand enfin il l'a, ça ne le satisfait pas non plus. Est-ce que ce n'est pas l'image de tout ce qui se passe aujourd'hui dans la société ? Et est-ce qu'on n'est pas là aussi renvoyé dans nos cordes ? Est-ce qu'on n'est pas tous un peu comme ça ? Frustré quand on n'a pas ce qu'on veut et insatisfait quand on l'a enfin. Jusqu'où laisserons-nous le mal faire corps avec nous ? Résistons, résistons, les amis, résistons. Résistons avec les forces que Dieu donne. Vous vous souvenez ? La Bible, la prière et les frères et sœurs de l'Église. Changeons de comportement. Repentons-nous. C'est ce qu'Amnon n'a pas su faire ici. Reconnaître ses torts et revenir à Dieu et revenir à sa sœur. La vie de famille, ça devrait être un synonyme de refuge, un refuge où l'on prend des forces. Mais la vie de famille, ça peut être aussi complètement dysfonctionnel. Je suis sûr que si on demandait à chacun d'entre nous, ben pour certains d'entre nous, évoquer l'enfance, ça reviendrait à compter les cicatrices, à compter les coups, et peut-être à parler de cauchemars. Et pour d'autres, au contraire, ben, évoquer le passé, évoquer la vie de famille, ce serait la nostalgie de la sécurité et la nostalgie des beaux rêves. Mais peut-être aussi parce que la vie est devenue plus compliquée depuis. Ma prière, en tout cas, c'est que notre communauté, eh bien, elle continue à être une nouvelle famille. On fait partie de la famille de Dieu. Et en tant que nouvelle famille, eh bien, qu'elle permette à chacun de se construire et de se reconstruire sous le regard bienveillant des frères et des sœurs. Un jour, au retour de Jésus-Christ, toutes les vérités éclateront. Au retour de Christ, toute la justice sera rendue. Et, promesse de Jésus, il séchera toutes nos larmes et le mal ne sera plus. En attendant ce jour, eh bien, la violence n'a pas de place dans le royaume de Dieu. Chacun a le droit de refuser. Chacun a le droit de dire non. Chacun a le droit d'être respecté et chacun a le devoir de respecter l'autre. C'est tout ça qu'il nous faut enseigner à nos enfants et leur donner l'exemple et leur donner aussi ce bel objectif, apprendre à connaître Dieu et vivre pour lui. Amen.